Bonjour à tous. Encore une fois, bonjour à tous. Donc, ce matin, nous allons lire ensemble un texte qui nous parle du Saint-Esprit. Donc, quelques prières l'ont mentionné. Et c'est vrai que nous, chrétiens, nous croyons à un Dieu trinitaire. C'est une vérité qui est tellement claire dans la Bible. Le Père est Dieu, le Fils, Jésus, est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est une vérité qu'on ne peut pas totalement comprendre, mais qui nous pousse, nous chrétiens, à adorer ce Dieu qui nous a créés et qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Un Dieu qui est totalement compréhensible par nous me donne tout de suite le premier indice que ce Dieu-là a été inventé par nous. Mais le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu comme ça. Le Dieu de la Bible, celui qui se révèle dans la Bible que nous lisons, est un Dieu qui est au-dessus de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Et la Trinité nous montre cela. Je ne pense pas que nous, humains, nous aurions pu inventer cette doctrine de la Trinité. En étudiant un petit peu l'histoire de l'Église, nous voyons très vite que l'Église s'est divisée sur pas mal de questions par rapport au Saint-Esprit. Des débats bien animés continuent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Ils sont peut-être encore un peu plus animés quand nous touchons à la question des dons du Saint-Esprit. Ces questions sont bien sûr très importantes et chaque église doit avoir un enseignement qui couvre l'ensemble de la Bible. Et bien évidemment, nous sommes obligés de parler sur ces questions. Mais avant de nous lancer dans toutes ces questions, bien évidemment importantes, nous devons nous poser une question. Quel est le but premier du Saint-Esprit ? Est-ce que nous connaissons le but premier du Saint-Esprit ? Et donc, nous allons lire ensemble Jean, chapitre 16, versets 1 à 15. Jean, chapitre 16, versets 1 à 15. Donc, je vais le lire. Et ceux qui veulent, ils peuvent aussi le suivre ici. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi, voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. J'attire votre attention sur le verset 14, et nous verrons ensemble que le Saint-Esprit amplifie l'œuvre de Jésus-Christ. Le but premier du Saint-Esprit est de glorifier Jésus. Ce que nous venons de lire a eu lieu pendant les derniers instants de Jésus, pendant sa première venue sur terre, avant qu'il monte sur la croix. Et ici, il est avec ses apôtres, des hommes qui ont tout quitté pour le suivre, leur métier, leur maison, etc. Le départ de Jésus est imminent. Jésus savait qu'il allait mourir sur la croix pour des pécheurs comme moi et vous. Et avant ce départ, il a voulu passer du temps avec ses apôtres. Il a voulu partager un dernier repas avec eux et il leur a dit de refaire cela en mémoire de lui. Et c'est ce que nous avons fait en partageant du pain et du vin ce matin. Il les a pris à l'écart et il leur a enseigné des vérités très très importantes. Les disciples, nous l'avons lu, sont dans une tristesse profonde. La tristesse a rempli leur cœur, nous dit le texte, parce que Jésus est en train de leur expliquer de manière détaillée la persécution qu'ils vont connaître. Guillaume Bourin, la semaine dernière, nous a bien dit qu'il ne faut pas oublier que dans le monde, beaucoup de nos frères et sœurs payent cher pour leur foi. Ils sont persécutés physiquement. La persécution en France et en Europe est loin d'être ce que des frères et sœurs connaissent dans le monde. C'est des choses que parfois nous avons sûrement du mal à réaliser, mais c'est une réalité aujourd'hui. Et Jésus n'a jamais caché cette vérité. Jésus a expliqué le coût à payer pour le suivre. Dans le chapitre 15, juste avant, au verset 20, c'est écrit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » C'est difficile d'imaginer cette scène. Jusqu'à maintenant, Jésus était avec eux. Il était, lui, la cible de la haine du monde. Mais quand il ne sera plus là, ce sera les apôtres qui sont devant lui. Il ne pourra plus les protéger, comme il le fera encore dans le jardin de Gethsémané, quand les soldats sont venus pour chercher Jésus. Et Jésus leur a dit, « Qui cherchez-vous ? » Et ils ont dit, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur a dit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Encore là, il les a protégés. Et nous pouvons lire ça au chapitre 18, du verset 7 à 8. Mais une fois que Jésus ne sera plus là, eux seront la haine du monde, seront la cible de la haine du monde. Ils seront persécutés. Cependant, dit Jésus à ses apôtres dans le texte que nous avons lu, « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Nous vivons dans une période incroyable de l'histoire. Je crois qu'on serait nombreux à vouloir vivre des histoires qu'on peut retrouver dans les évangiles avec Jésus. Le voir marcher sur l'eau, la multiplication des pains où il a nourri des foules, la transfiguration, ou encore peut-être l'enseignement excellent de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, où il a pris l'Ancien Testament et il leur a expliqué tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Peut-être qu'il y a d'autres histoires que vous aimeriez vivre avec Jésus. Mais ici, Jésus, il est en train de dire qu'il vaut mieux qu'il s'en aille. Peut-être difficile pour les disciples de comprendre cela à ce moment-là. Mais en fait, il faut se rappeler qu'à l'époque, Jésus avait un corps humain comme le nôtre. Il était limité par un corps humain et qu'il ne pouvait pas être au même temps partout, alors que l'Esprit le peut aujourd'hui. Imaginons Jésus en chair et en os, près de chacun de nous, tout le temps. Ça serait génial de pouvoir lui poser plein de questions, qu'il nous conseille, qu'il nous donne sa paix, qu'il nous enseigne. Continuez la liste. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, peut faire cela pour chacun de nous et n'importe où. Voilà pourquoi Jésus est en train de leur dire « il vaut mieux que je m'en aille ». Le Saint-Esprit est le défenseur, le consolateur, le conseiller, l'aide selon les traductions, et je n'ai pas regardé toutes les traductions qui existent. En fait, selon les spécialistes, il n'existe pas un mot français pour décrire la richesse du mot grec « parakletos ». Littéralement, ça veut dire « appeler aux côtés d'eux », d'où le sens de quelqu'un qui encourage, qui exhorte. Et en fait, ça a été vraiment dur, ce petit point-là. Et je vais vous lire ce que j'ai pu lire dans le commentaire de Don Carson, qui est un professeur de théologie. Et il expliquera toujours mieux que moi ce petit détail linguistique dans ce texte. Donc je vais vous lire ce que j'ai pu trouver dans un de ses commentaires. Donc voilà ce que nous dit Don Carson. Dans le grec séculier, parakletos signifie principalement assistant légal, avocat, c'est-à-dire celui qui vient prêter main forte à quelqu'un au tribunal, qu'il s'agisse d'un avocat, d'un témoin ou d'un représentant. Le terme a été transcrit sous cette forme légale en hébreu et en araméen. Toutefois, en grec, le mot n'a jamais eu le sens technique précis du latin advocatus, avocat au sens légal. Chez Jean, les connotations juridiques ressortent le plus fortement en Jean 16, versets 7 à 11, donc c'est le texte qu'on est en train de voir ce matin, où le paraclet est davantage présenté comme un procureur que comme un avocat de la défense. Conseiller convient à condition qu'on l'envisage dans un sens judiciaire. Pardon. Le mot consolateur, traditionnellement utilisé comme traduction, désigne surtout quelqu'un qui vient sécher les larmes et ne convient plus très bien. De même, la traduction aide fait trop penser à un subordonné, notion totalement absente de Jean chapitre 14 à 16. J'espère ne pas trop vous avoir perdu avec ces détails techniques, mais je pense que c'est important pour comprendre ce texte. Et peut-être une des choses qu'on peut retenir, c'est que le mot qui est généralement le mot par lequel on traduit dans nos versions, eh ben, il ne convient pas très bien. En fait, le Saint-Esprit n'est pas juste quelqu'un qui vient sécher nos larmes, même si Dieu le fait, bien évidemment. Ce n'est pas le sens ici. Ici, Jésus, il est en train de dire que le suivre aura un coût, la persécution. Les apôtres connaîtront la persécution, mais ils la vivront avec le Saint-Esprit. Ils vivront la persécution avec le Saint-Esprit, celui qui va les exhorter et qui va les encourager. Et cela doit beaucoup les réconforter dans ce moment où ils sont dans une profonde tristesse. En lisant ce texte, j'ai repensé à ma première heure de conduite. Mon grand-père paternel était camionneur, et donc mon père et ses frères et sœurs, ils ont eu une voiture familiale quand ils étaient très jeunes. Donc au Portugal, à l'époque, c'était bien. Donc ils étaient très contents, je pense. Et ce qui était marrant, c'est que quand mon grand-père était arrêté par la police, parce qu'il avait 7 personnes dans la voiture, et il leur disait, écoutez, il y a la moitié qui sont encore à la maison. Parce qu'en fait, mon père vient d'une famille avec 15 enfants. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, dans la famille, eh ben, on aime plutôt les voitures. Mon père et mes oncles, ils aiment bien les voitures. Mais moi, eh ben, je ne connaissais pas grand-chose à ma première heure de conduite. Et je me souviens, le moniteur m'a demandé, tu sais conduire un peu ? Et j'ai dit oui. Mais très vite, il s'est aperçu en fait que je savais juste à peine tenir le volant. Je vois Philippe qui... Et qu'en fait, je ne savais pas vraiment conduire, en fait. Et du coup, il a pris le contrôle de la voiture, et c'était très bien. Le but en vous expliquant ça, c'est vraiment de vous aider à réaliser que le Saint-Esprit est tout le temps à côté de nous. Il est tout le temps là pour nous encourager, nous exhorter dans nos vies. Et avec nous, ou sans nous, il amplifie l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus fait comprendre à ses apôtres que le Saint-Esprit qui sera à leur côté continuera son œuvre. Ils ne seront pas seuls. Le don du Saint-Esprit doit donc être vu par les apôtres et par nous aussi comme un avantage parce qu'il amplifie l'œuvre de Jésus. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement, et le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. La promesse de l'envoi du Saint-Esprit a commencé à se réaliser à la Pentecôte. C'est un moment unique, historique, 50 jours après la mort de Jésus, où 120 personnes ont reçu le Saint-Esprit et a commencé à parler des langues étrangères qu'ils n'avaient pas apprises. Et tous les Juifs qui étaient venus de différents endroits pour la fête de la Pentecôte, ils ont entendu des merveilles de Dieu dans leur langue. C'est ce que nous pouvons lire dans Actes 2. L'apôtre Pierre, qui a prêché ce jour-là, a dit, donc nous pouvons voir cela au verset 32 et 33 de Actes 2, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. » Avant la venue de Jésus, le Saint-Esprit était donné à certains hommes, mais pouvait être enlevé. C'est pour ça que David, dans le psaume 51, un psaume bien connu de repentance, de demande de pardon, il dit au verset 13, « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Mais après la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit nous est donné pour toute l'éternité. Jean 14, verset 16 nous dit, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que nous avons les arts de l'Esprit. Nous avons un acompte de l'Esprit-Saint, comme on peut le lire en 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22. « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Aujourd'hui, nous avons un acompte de l'Esprit-Saint. Un jour, nous aurons la plénitude du Saint-Esprit. Ça prouve l'impossibilité, par exemple, qu'il y ait du péché. Et ça prouve aussi la perfection du monde dans lequel nous vivrons. Ça semble peut-être même impossible à imaginer. Mais voilà la promesse. Quand Jésus était sur terre, il a convaincu le monde de péché, de justice, de jugement. Mais après ce moment historique de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui le fait. En Jean 7, verset 7, nous pouvons lire « Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à convaincre le monde que sa manière d'agir est mauvaise, à convaincre de péché, car le monde ne croit pas en Jésus. Une personne ne pourra jamais venir à Dieu si elle n'est pas pleinement convaincue de son péché. Personne ne s'est jamais mis à genoux parce qu'elle a compris enfin que Dieu existe. Personne ne s'est jamais mis à genoux parce qu'on a réussi à lui prouver que la Bible n'a pas été falsifiée. Et il y a plein d'autres questions qu'on nous pose. Ces questions doivent avoir une réponse de notre part. 1 Pierre 3, 15 nous dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Donc, c'est bien que nous essayons de trouver des réponses à des questions difficiles. Et la bonne nouvelle, c'est que bien souvent, Dieu nous les donne. Mais n'oublions jamais le plus important. Priez pour que le Saint-Esprit convainc de péché. C'est le plus important. Et nous devons aussi parler des exigences de Dieu, de la loi de Dieu pour que le besoin de pardon soit compris. Des personnes pourront dire qu'elles ne sont pas comme Hitler, qu'elles n'ont jamais tué. Mais si nous leur posons les bonnes questions, elles vont admettre qu'elles ne sont pas parfaites. Et c'est bien là le problème, parce que Dieu exige la perfection. Petite image que j'aime bien, une feuille, soit elle est blanche, soit elle ne l'est pas. un petit ou grand péché, si je peux dire les choses comme ça, fait de nous des pécheurs. Sachez en fait qu'il n'existe pas de petits ou de grands péchés, mais des péchés avec des conséquences plus ou moins graves. Un seul péché fait de nous des pécheurs. Et le Saint-Esprit peut utiliser plusieurs moyens pour convaincre de péché. Il peut nous utiliser, nous, avec notre manière de vivre, par notre témoignage. Il peut utiliser la prédication. Et je crois que, en fait, nous avons juste à nous mettre en marche. C'est lui qui fera le job. C'est lui qui fera le travail. C'est lui qui convainc véritablement de péché. Le Saint-Esprit convainc aussi de justice. En fait, le Saint-Esprit convainc de la fausse justice. Comme je l'ai juste dit avant, nous avons tendance à nous justifier. Je ne suis pas comme Hitler, je n'ai pas tué, etc. Jésus a eu beaucoup de discussions avec les religieux de l'époque, les pharisiens. Ils étaient convaincus de leur justice. Mais Jésus leur a dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Matthieu 23, versets 25 à 27. Jésus a été très dur avec ces religieux de l'époque pour leur convaincre de leur fausse justice. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit continue ce travail. Jésus a aussi encouragé à ne pas juger d'après l'apparence, mais à porter un jugement juste. Comme nous pouvons le voir en Jean 7, verset 24. Et encore une fois, aujourd'hui, le Saint-Esprit continue ce travail. Il convainc du faux jugement du monde. Le monde est aveuglé spirituellement. Le monde doit comprendre que Christ va triompher et que le dominateur du monde, Satan, sera condamné. Jésus est la vérité. Nous pouvons le lire en Jean 14, 6. « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient ton Père qu'en passant par moi. » Et Jésus dit dans le texte que nous avons lu, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Ce texte s'adresse tout d'abord aux apôtres qui sont devant Jésus. Jésus est en train de leur dire que le Saint-Esprit les aidera à écrire ce que nous avons aujourd'hui entre nos mains, le Nouveau Testament, la Bible, qui a été inspirée par le Saint-Esprit. En 2 Pierre 1, versets 20 à 21, nous pouvons lire « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. » Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous pouvons lire encore en 2 Timothée 3, 16 à 10 à 17, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Bien sûr, le Saint-Esprit aujourd'hui conduit l'Église. En l'illuminant, il illumine l'Église pour la conduire dans la vérité. Voilà la prière de Paul pour l'Église d'Éphèse, une prière magnifique. Au chapitre 1, versets 17 à 18, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Donc Paul priait pour cette église, pour que le Saint-Esprit l'illumine, qu'elle soit conduite par la vérité. Le Saint-Esprit, donc, comme il y a 2000 ans, Jésus le faisait, il conduisait les gens dans la vérité, le Saint-Esprit le fait aujourd'hui pour nous, l'Église. Nous devons donc prier pour tous ceux qui enseignent dans l'Église d'une manière ou d'une autre. Nous devons prier quand nous expliquons quelque chose de la Bible. Nous devons prier quand nous lisons, quand nous entendons la Bible. L'Esprit Saint sera toujours le meilleur enseignant, le meilleur professeur, le meilleur prédicateur de la Bible, parce que c'est lui-même qui l'a inspiré. Nous arrivons à la fin, et ce que nous devons retenir, c'est que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour faire la différence dans le monde. L'Esprit Saint, nous l'avons vu, il a pour rôle premier de glorifier Jésus. Jésus a glorifié le Père sur la terre. Selon Jean 17, verset 4, le Saint-Esprit glorifie Jésus, comme nous pouvons le voir au verset 14 de notre texte. Il révélera ma gloire, voilà ce qui est écrit. Comment ? En prenant de ce qui est à lui. Donc la personne et la mission de Jésus nous sont annoncées par le Saint-Esprit. Et bien évidemment, ce que Jésus a fait sur terre, c'est ce que le Père lui a demandé de faire. Donc, indirectement, le Père est aussi glorifié par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amplifie donc l'œuvre de Jésus, premièrement, et non pas notre argent, nos talents, notre intelligence, etc. Rappelons-nous qu'il est à nos côtés. Chaque jour, si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en nous. Quelque part, c'est lui qui fait tout. Un peu comme un moniteur de l'école du dimanche avec un élève comme moi qui ne savait pas vraiment conduire. Eh bien, le Saint-Esprit est là. J'aurais pu dire à mon moniteur de l'école du dimanche, écoute, franchement, je ne sais pas conduire. Il était sympa en plus. Je ne sais pas conduire. Vraiment, je ne sais pas. On fait ce que tu veux. On ira où tu veux. Je te fais confiance. J'aurais pu lui dire ça. Et je pense que c'est ce que Dieu veut qu'on dise. Nous devons réaliser que l'Esprit Saint dans nos vies, c'est comme Jésus qui serait ici même, en chair et en os, prêt à nous conseiller, prêt à nous aider, prêt à nous encourager, à nous exhorter. La liste peut encore continuer. Je dois avouer que j'ai une connaissance plutôt intellectuelle du Saint-Esprit plutôt qu'une intimité avec le Saint-Esprit. Francis Chan, qui est pasteur, a écrit dans un de ses livres, que je vous encourage à lire, que le Saint-Esprit est le Dieu oublié. Je le cite, « De mon point de vue, le Saint-Esprit est terriblement négligé. Et en réalité, il est oublié. Aucun chrétien digne de ce nom ne renierait son existence. » Toutefois, je suis prêt à parier que des millions de croyants pratiquants ne peuvent pas affirmer qu'ils ont expérimenté sa présence ou son action dans leur vie au cours de l'année écoulée. Et beaucoup d'entre eux ne croient pas qu'ils le pourraient. Si comme moi, vous réalisez que le Saint-Esprit, vous en avez besoin et que vous devez plus lui faire confiance, parce que le Saint-Esprit dans nos vies, c'est comme Jésus à nos côtés, jour après jour. Et bien, prions ensemble pour vraiment que nous puissions lui faire totalement confiance pour tout ce qu'on a vu et que le Saint-Esprit glorifie Jésus au travers de nous. Père, merci. Merci de nous avoir envoyé ton Esprit Saint. Et pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous négligeons le Saint-Esprit dans nos vies. Pardon pour toutes les fois où nous l'attristons. Pardon pour toutes les fois où nous l'éteignons dans nos vies, Seigneur. Et Père, aide-nous à vraiment l'écouter. Aide-nous à vraiment être convaincus, Seigneur, du péché dans nos vies. Aide-nous à vraiment le laisser nous convaincre de notre faux jugement, Seigneur, bien souvent. Aide-nous à vraiment aussi être convaincu de notre fausse justice. Et Père, aide-nous vraiment à nous laisser conduire par ton Saint-Esprit. Aide-nous à nous laisser conduire par ton Saint-Esprit pour que nous soyons dans la vérité. Père, aide-nous à vraiment lui faire totalement confiance quand nous ouvrons ta parole, quand nous l'écoutons. Aide-nous à vivre une intimité avec ton Saint-Esprit. Merci de nous l'avoir donné. Aide-nous à réaliser cette vérité que le Saint-Esprit dans nos vies, c'est comme Jésus, à nos côtés, jour après jour, pour nous encourager, pour nous exhorter. Et aide-nous, Seigneur, vraiment à lui faire totalement confiance, parce que c'est lui qui convainc aussi ce monde de péché, de justice et de jugement. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit soit pleinement à l'œuvre dans notre Église et qu'il puisse convaincre, Seigneur, des gens, Seigneur, de venir à toi parce qu'ils ont réalisé leur péché et qu'ils ont réalisé leur besoin de pardon offert en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Dans le nom de Jésus. Amen.